l'écologie intégrale au cœur du Pays Basque. Une émission proposée et réalisée par Jeanne Busson.
Bonjour, bienvenue dans notre émission L'écologie intégrale au cœur du Pays Basque. Alors ici, au Pays Basque, le surf, bien sûr, est plus qu'un sport. C'est un mode de vie, un état d'esprit, voire une institution. Alors deux copains se sont lancés dans ce projet, le projet de la Green Session, pour proposer un mode de consommation plus responsable et durable dans l'univers des sports de glisse. Pour en parler, nous rencontrons aujourd'hui Vincent Canu, cofondateur de la Green Session, avec son ami Pierre. Donc vous êtes breton, mais vous venez de temps en temps au Pays Basque. Donc avant de parler de la Green Session, une question, donc qu'est-ce qui t'a donné envie de t'investir dans le secteur de l'environnement ?
Salut Jeanne, écoute, merci déjà de me poser toutes ces questions et de t'intéresser à notre projet, c'est sympa. Et j'ai pas vraiment de date clé, c'est-à-dire que je pense que ça a toujours fait partie de moi, j'ai toujours considéré que préserver l'environnement dans lequel on vivait était quelque chose d'assez naturel. Et voilà, donc dès que j'ai eu l'âge plus ou moins de prendre des décisions après le lycée, je me suis orienté vers une école qui était spécialisée dans l'environnement. Et après, j'ai eu un parcours professionnel d'une dizaine d'années dans les énergies renouvelables, donc également assez axé autour de ces valeurs environnementales. Donc voilà, donc ça me suit depuis un petit peu toujours cet engagement-là, quoi.
Tu t'es passionné un peu pour les sports de glisse, qu'est-ce que tu pratiques ?
Ouais, alors ça a pas mal évolué, il y a eu plusieurs sports de glisse. J'ai commencé par le bodyboard ici, là, en Bretagne. Ensuite, j'avais enchaîné sur le surf. J'ai fait beaucoup de skate aussi quand j'étais ado, jeune adulte, on va dire. Et ensuite, j'ai découvert le kite. Donc, je suis un grand passionné de kite. Et là, je refais pas mal de surf aussi avec notamment mes enfants qui grandissent. Donc, du coup, ça m'a donné pas mal envie de me remettre à l'eau avec eux en surf. Et voilà, et puis un peu de paddle. Enfin, tout ce qui permet de prendre du plaisir sur l'eau, en fait. Hein, peu importe, j'ai envie de dire la pratique, l'important c'est de bien s'amuser sur l'eau et puis de prendre des moments de plaisir avec les gens qui nous entourent.
Ok, du coup c'est pas trop compliqué là pendant ce temps de confinement ?
Si, c'est très compliqué. Très compliqué, d'autant plus que jusqu'à présent j'habitais à Rennes, donc j'étais pas forcément en contact direct avec les éléments. Mm. Et depuis cet été, j'ai déménagé à côté de Quiberon dans le Morbihan, donc directement sur les spots. Donc c'est différent, quoi. À la fois, c'est un vrai plaisir quand on a une heure d'aller se balader au bord de mer, mais c'est aussi très frustrant de voir les conditions et de ne pas pouvoir y aller. Donc,
j'imagine.
C'est un peu dur. J'ai hâte que cette sanction-là se lève.
Alors avec ton ami qui s'appelle Pierre, tu as fondé en 2018 la Green Session. Alors explique-nous qu'est-ce que c'est et qui a eu l'idée en premier.
Le concept de la Green Session, en fait, alors avec Pierre, ça faisait une dizaine d'années qu'on était dans nos boulots respectifs. On avait envie de se lancer dans un nouveau projet un peu plus personnel. L'idée, c'était de... On avait cette sensibilité environnementale qui montait de plus en plus, et on avait envie de s'investir un peu plus dans un projet qui avait du sens. Alors même si moi, le domaine dans lequel j'évoluais avait du sens, mais il n'empêche que j'étais salarié dans une entreprise, j'étais le maillon d'une chaîne qui était déjà bien huilée, et j'avais envie de me lancer dans un projet plus personnel dans lequel je pourrais avoir un levier d'action peut-être un peu plus large et essayer d'avoir un peu plus d'impact à mon niveau. Et donc assez naturellement, quand on imagine lancer un projet, on se tourne sur ses passions. Et assez rapidement, donc moi j'ai regardé ce qui se faisait au niveau des sports de glisse. Et je suis tombé sur des marques que je connaissais déjà de nom, mais sans vraiment connaître leur engagement, type Patagonia, Pitcher, donc ce genre de marques qui sont assez connues. Et en fouillant, je me suis rendu compte qu'il y avait une multitude de marques qui étaient beaucoup plus petites, qui, elle aussi, s'engageait concrètement au quotidien pour essayer de faire les choses mieux, mais qui souffrait de visibilité. L'idée de la Green Session est partie de là en se disant pourquoi pas créer une plateforme commune où on pourrait justement fédérer tous ces acteurs du monde de la glisse et plus généralement de l'outdoor autour de ces valeurs environnementales et sociales. Et dès les balbutiements de l'idée du projet, j'en ai parlé à Pierre, qui lui aussi, avait une petite période professionnelle à vide. Il souhaitait aussi changer, donner une nouvelle tournure à son métier, et voilà, donc tout de suite ça lui a plu, et dès le début on s'est associés ensemble et on a donné vie à la Green Session à l'été 2018. Et après le projet, il a pas mal évolué, hein. Donc initialement on l'a monté sur un modèle économique d'une boutique en ligne, donc on s'est dit on va référencer des produits selon des critères éco-responsables, et ensuite on va les vendre dans le cadre d'une boutique en ligne. Donc on a fait ça au début, ça nous a permis de commencer à mettre un pied dans le milieu de la glisse et de l'outdoor, de connaître les marques, de connaître les différentes pratiques. Et puis assez rapidement, on s'est senti un petit peu étriqué dans ce rôle de commerçant, et on a voulu alimenter le blog notamment en créant du contenu pour parce que nous le but de la Green Session c'était pas forcément de vendre des produits mais c'était vraiment d'essayer de changer les mentalités, de changer les habitudes de consommation. Le faire via une boutique en ligne c'est une façon de le faire mais il y a d'autres façons et notamment le faire rédiger des articles de blog pour faire de l'information, de la sensibilisation. C'est là-dedans qu'on a voulu aussi s'orienter pour avoir une vision un petit peu plus large qui nous permettait aussi de prôner d'autres valeurs comme notamment le consommer moins qui est très très important à nos yeux parce qu'on parle beaucoup de consommer mieux mais avant tout il faut penser au consommer moins. Et donc ça, on pouvait le faire dans le cadre d'un blog et d'une newsletter. Et petit à petit, du coup, le contenu qu'on a proposé a plu, on a fait des e-books et la communauté a commencé à grandir. Et donc là, maintenant, on est environ 4000 Green Riders qui lisent la newsletter tous les jeudis, avec qui on échange, avec qui on partage des moments soit par mail, soit par réseaux sociaux. On essaye d'organiser des événements de temps en temps. Et voilà, donc c'est un vrai plaisir de pouvoir partager cette vision-là avec d'autres personnes et d'avoir un projet qui est collaboratif, en fait.
Merci Vincent Canu, vous êtes cofondateur de la Green Session avec Pierre Barbès pour des conseils et des bons plans pour pratiquer une glisse plus éco-responsable. Alors, à l'instant, vous parliez de consommation. Consommer mieux, c'est bien, mais consommer moins, c'est mieux. Alors, comment on fait ?
Ah, bah, c'est une bonne question. Bah, du coup, on part du principe, nous, que... quel que soit le produit, aussi vertueux soit-il, aussi éco-conçu soit-il, il va avoir un impact, il va générer de la pollution tout au long de son cycle de vie. Donc l'idée, c'est justement de sensibiliser sur le fait de consommer moins et essayer de pousser les gens à repousser au maximum justement l'acte d'achat. Et après, quand ça devient inévitable, et ben du coup, essayer d'acheter de façon la plus éco-responsable possible. Et là, du coup, on essaie d'accompagner nos lecteurs dans cette démarche éco-responsable en décryptant le marché de ce qui peut exister, en essayant de déceler les communications marketing un petit peu limites de certaines marques, à la limite du greenwashing, du coup essayer de décoder tout ça. Le principal message, c'est vraiment essayer de repousser au maximum, et donc pour repousser l'acte d'achat, bah, ça passe par un bon entretien de son matériel, de ses vêtements, ça passe par de la réparation, et c'est des choses des fois qui sont toutes bêtes, hein, ça coûte pas très cher, mais où on peut même le faire soi-même. C'est juste qu'on n'a pas l'habitude de le faire et ensuite ça peut aussi passer par du marché de l'occasion bien sûr et après ou de la location aussi pour certains objets. Et puis quand ça devient inévitable, je prends l'exemple par exemple d'une combinaison de surf, bah, il y a un moment donné elle est quand même rincée la combinaison et on a beau faire tout ce qu'on veut, elle est plus réparable. Et bah, dans ce cas-là, il faut se tourner vers du neuf et là il faut ensuite se tourner vers des produits qui sont les plus éco-conçus possibles.
D'accord, justement que ce soit pour des combinaisons ou des vêtements en général. On sait que la fabrication de la plupart de nos vêtements ben, crée de la pollution. Est-ce que tu peux nous rappeler, nous expliquer justement les différents types de pollution que génère le textile ?
Oui, alors le textile, ben, c'est un secteur qui est très très polluant. Alors souvent on entend la phrase que c'est le deuxième plus polluant, donc je n'ai pas envie de rentrer dans ces histoires de podium, mais ce qui est important de retenir, c'est que c'est un des secteurs les plus polluants au monde. Et quand on prend l'ensemble du cycle de vie, ben, on comprend vite pourquoi. Le textile, c'est avant tout des matières premières. Donc pour ça, il faut les extraire ou les cultiver. Donc si c'est du synthétique, ça va être par exemple du polyester ou ce genre de choses, c'est des dérivés pétrochimiques. Du pétrole, c'est des énergies non renouvelables, c'est de la transformation. Si c'est des matières naturelles, alors la plus connue et la plus emblématique du textile, c'est le coton. Et le coton, c'est de la culture, donc c'est beaucoup d'eau, c'est beaucoup de pesticides, c'est beaucoup d'énergie ensuite pour le transformer avec des teintures, avec des produits chimiques. Ensuite, il y a beaucoup de rejets atmosphériques dans les différentes étapes de transformation des produits textiles, avec beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, notamment. Et après, il y a des choses qu'on voit un petit peu moins, qui sont, pendant l'utilisation, il y a toutes les parties de lavage, notamment, qui peuvent relarguer, quand on est sur des matières synthétiques, des microparticules. Et ces microparticules de plastique, alors c'est vrai que c'est invisible et on ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est une des sources de pollution la plus importante du textile. Et j'ai lisé un chiffre il y a peu de temps que j'ai vérifié. Ça représenterait à peu près 50 milliards de bouteilles d'eau par an, tu vois, l'équivalent qui serait rejeté dans l'océan. Donc c'est juste cet aspect lavage et microparticules de plastique, c'est déjà énorme. Et après, bah, tu as la fin de vie du produit, donc c'est encore très peu recyclé, donc ça finit bah, soit enfoui, soit incinéré, donc encore avec des impacts écologiques importants. Et là, je t'ai pas encore parlé des impacts sociaux au niveau de la fabrication qui sont juste inacceptables, en fait. On fait travailler des gens dans des conditions horribles. À l'autre bout du monde, on ferme les yeux complètement là-dessus et c'est pas tolérable et ça peut plus continuer, quoi. Et après, l'autre aspect, un des pires du textile aussi, c'est l'évolution que le marché est en train de prendre vers des produits qui sont toujours moins chers. Donc du coup, avec toujours plus de production, avec des collections qui sont de plus en plus renouvelées, de plus en plus rapidement. Et donc du coup, une création du besoin qui est énorme, donc avec beaucoup de marketing. Et donc on tombe dans une surconsommation qui est hallucinante. Et on se retrouve avec des chiffres en France qui sont hallucinants. On consomme presque 10 kilos de vêtements par an. Et ça fait 600 000 tonnes de vêtements quand même qui sont consommés sur le territoire français et on en jette plus de 200 000. Donc c'est hallucinant quoi.
C'est ça, du coup tu le précisais aussi avant que bah, justement cette pollution génère de fortes inégalités sociales, des problématiques éthiques, notamment bah, dans les conditions de vie des travailleurs. Donc j'en profite aussi pour dire que bah, justement une des originalités de l'encyclique écologique du pape, c'est d'établir un lien entre la crise écologique et la crise sociale. Il dit justement donc il n'y a pas de crise séparée, sociale d'un côté et environnementale de l'autre, tout est lié, les modes de consommation, le réchauffement climatique, les guerres, les inégalités, etc. Donc c'était voilà, c'était pour faire le lien avec ce que tu disais avant, que finalement tout a un impact quoi, enfin dans nos choix de consommation. Et justement, j'avais une question aussi. Donc le greenwashing, enfin aussi appelé marketing vert, donc c'est une technique de publicitaire qui consiste à vendre un produit en faisant prévaloir ses vertus biologiques ou écologiques, alors qu'en réalité, il n'en est rien. Qu'est-ce que vous donneriez aussi comme conseil pour éviter de tomber dans le piège du greenwashing ?
Alors ça, c'est un sujet assez compliqué parce que enfin, nous, c'est le sujet principal pour lequel les gens nous suivent, en fait. Nous, c'est le retour qu'on a tout le temps. C'est voilà, j'ai envie de m'acheter un nouveau produit, j'ai envie de limiter au maximum mon impact. Vers qui je peux me tourner? Quelles sont les marques vertueuses? J'ai peur du greenwashing, j'ai peur de me faire avoir. Donc ça, c'est tous les jours, on a des remarques comme ça. Les gens, ils sont complètement paumés et bah, nous, avant, c'était pareil. En tant que consommateur, par le discours marketing des marques, on ne sait plus qui fait les choses bien. Du coup, pour lutter contre ça, bah, il n'y a pas 36 manières, il faut s'informer en fait, il faut passer du temps à le faire, à s'informer, il faut être curieux, il faut poser des questions si on est dans une boutique au vendeur, malheureusement on n'a pas toujours les réponses, donc ça veut dire que c'est à nous de faire le boulot, de s'informer, de passer du temps justement pour essayer de comprendre comment le produit que je veux acheter est fabriqué. Le rôle d'organisation comme nous, mais il y en a d'autres hein, bien sûr, c'est justement de passer du temps à faire ça, de développer une expertise dans ce domaine-là, et ensuite d'en faire profiter justement les lecteurs et les consommateurs pour que eux bah justement s'épargnent de passer des heures et des heures à faire des recherches sur Internet sans être vraiment sûr de ce qu'ils trouvent. Et voilà, donc le conseil que je peux donner, c'est d'être curieux, de poser des questions et de se tourner vers des organismes qui font ce travail de décryptage. Et là où il faut être vigilant, c'est qu'il faut se tourner vers des organismes qui sont de préférence indépendants, quoi. Cette notion d'indépendance est très importante parce qu'il y a tellement d'organismes, de labels qui sont pas indépendants, qui sont financés par des intérêts du coup d'entreprises derrière le textile. Donc il faut être très vigilant justement sur les organismes vers lesquels on se tourne. Quoi.
Merci Vincent Canu, cofondateur de la Green Session. On vous retrouve la semaine prochaine. Vous nous présenterez votre produit phare, le ponchouille, pour les adeptes de sport de glisse. Bonne semaine à tous.
L'écologie intégrale au cœur du Pays Basque. Une émission proposée et réalisée par Jeanne Busson.